Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de projets de plan social chez Auchan et Michelin. En fait, ce sont des plans de licenciement, mais ça fait mieux de dire plans sociaux ou alors plans de sauvegarde de l'emploi. Ouais, c'est sympa aussi ça, comme mélange entre le réel et une espèce d'euphémisation qui sert à ceux qui nous tondent la laine sur le dos pour nous faire croire que ils sont sympas. Ah, ils sont tellement sympas qu'ils veulent sauvegarder l'emploi. Avec pour but d'accroître les profits. Voilà pour les plans sociaux, les plans de sauvegarde de l'emploi, qui sont en fait des plans de licenciement. Accroître les profits des actionnaires des deux groupes. Alors oui, on peut se dire, oui, il affirme ça, nanana, comme ça, l'emporte-pièce, j'arrive. Des économistes libéraux vous expliqueraient bien mieux que moi comment, chez Michelin, la concurrence est organisée entre les sites de production et comment la délocalisation d'une partie de l'activité sonne le glas des usines européennes, en tout cas d'Europe de l'Ouest, où les salariés ont obtenu de hautes luttes des salaires décents, mais pas suffisants pour compenser la perte de temps liée au travail salarié, où les salariés ont obtenu des protections sociales et syndicales qui ne compensent pas non plus les conséquences sur la santé du travail salarié. Je rappelle quand même qu'il y a 2 morts par jour en France en moyenne, ne parlons pas des dizaines de milliers, pas par jour heureusement, de personnes qui se retrouvent avec des accidents du travail ou des maladies du travail chaque année. Mardi 5 novembre sur France Info, à propos de la fermeture de l'usine de Vannes en Bretagne, une représentante CGT était interrogée sur son sentiment. On l'écoute.
Un dégoût. Je suis écœurée de voir autant de mépris pour les salariés depuis tant d'années qu'on travaille sur l'entreprise. Pour beaucoup, on a plus de 15 ans, 20 ans, voire 30 ans d'ancienneté. Au bout de 20 ans, de travailler en 3-8, en faisant 40 à 48 heures par semaine, et c'est un travail quand même vachement physique. Je suis un peu émue, désolée, c'est vrai que effectivement, d'apprendre ça, c'est... En plus, j'ai mon chéri qui travaille ici. Donc double peine. On s'inquiète aussi pour toutes les personnes qui sont en maladie professionnelle, qui vont devoir retrouver du travail demain, les couples qui sont dans cette entreprise, qui vont perdre tous les deux leur travail. J'ai une collègue, ils sont en couple tous les deux et ils viennent d'avoir un enfant. Je me dis mais je suis choquée et outrée en fait.
Vous venez d'entendre Stéphanie Schlosser de la CGT Michelin à Vannes, une représentante syndicale qui, à mon avis, se plante complètement dans son analyse. Tout ce qu'elle dit est en lien avec l'humain. Et c'est là où ça va pas. 20, 30 ans de nez à la boîte, en 3-8, donc 3 équipes qui se relaient 24 heures sur 24, avec l'alternance entre le matin, un peu tôt, pour l'embauche. La semaine d'après, l'embauche a lieu en début d'après-midi pour finir en début de soirée. Et la semaine suivante, c'est travail de nuit. Donc des conditions de travail difficiles pour que la boîte tourne. Seulement, cette syndicaliste ne se voit pas comme la voient les décideurs du groupe Michelin, qui cherchent la rentabilité maximum. Elle pense aux humains. Alors j'ai rien contre, mais elle se plante totalement dans son analyse. Par exemple, le couple avec enfant, les salariés en maladie professionnelle, des gens qu'elle côtoie, qu'elle connaît, mais pour la direction du groupe, ce ne sont que des ressources humaines, des lignes sur un budget, des chiffres dans une compta. Ah ouais, il dit ça, l'emporte-pièce, j'arrive. Des ressources humaines échangeables avec d'autres ressources humaines moins chères, ailleurs, comme par exemple dans les usines roumaines ou dans les usines indiennes du groupe Michelin. Le groupe Michelin n'a pas pour raison d'être de donner du travail à des humains, non, c'est une erreur de croire aux charmants documents RSE, aux discours sur les collaborateurs au cœur du métier, tout ça c'est bidon. Sur le site internet du groupe Michelin, sous l'onglet gouvernance, ce qui veut dire direction mais adoucit un petit peu le propos, on peut lire en gros: société mère du groupe, la Compagnie Générale des Établissements Michelin, CGEM, est depuis sa création en 1951 une société en commandite par action, SCA. C'est un statut pour une boîte. Dans ce cadre juridique, Michelin s'est doté d'une structure de gouvernance à la fois robuste, souple et équilibrée. La commandite Michelin aligne ainsi le déploiement de sa stratégie à long terme sur les intérêts des actionnaires. La détention exclusive nominative des actions favorise l'établissement d'une relation directe avec chaque actionnaire. Elle s'attache également à améliorer de façon continue la gouvernance du groupe et ses pratiques conformément aux recommandations du code, le code AFEP-MEDEF. Le MEDEF, on sait ce que c'est, un syndicat d'employeurs, plutôt quand même très très libéral. La FEP, on sait aussi ce que c'est l'Association Française des Entreprises Privées qui regroupe donc 110 grosses boîtes qui font du lobbying et elles ont un code de recommandation qui est lié à l'actionnariat. En fait, dans tout ce que l'on vient de lire là, la gouvernance, elle est liée à l'actionnaire. On a cité une phrase, c'est pas moi qui l'invente, la commande dite Michelin aligne ainsi le déploiement de sa stratégie à long terme sur les intérêts des actionnaires. Dans tout ce texte, qui n'apparaît pas ? Ouais, non, ben vous avez trouvé les salariés. Les salariés sont pas du tout présents. Ce sont juste des ressources humaines. C'est comme si, pour faire du pneu, parce qu'ils font du pneu, ils font aussi plein d'autres choses, on a besoin de matières premières. Ben, on va acheter des ressources. Et là aussi, on a besoin de personnel. Et ben, on va acheter du temps à des humains qu'on appelle des ressources humaines. Mais en aucun cas, la stratégie, qu'elle soit à long terme, à court terme ou à moyen terme de l'entreprise, n'est en lien avec les intérêts de la population. C'est en rien avec les intérêts des actionnaires. Dans la raison d'être de l'entreprise, il n'est pas question des salariés, mais de l'intérêt des actionnaires. Un intérêt bien compris par les dirigeants, dont la rémunération variable dépend des bénéfices. Comme on l'apprend dans un document interne du groupe, mis à disposition des investisseurs pour savoir où ils s'engagent. Un document intitulé « Rapport sur le gouvernement d'entreprise, politique de rémunération des organes de direction et de surveillance pour l'exercice 2024 ». Document où on peut lire « Alors, rémunération fixe, déjà on apprend que le président de la gérance, il gagne 1 100 000 euros par an et que l'autre qui est un gérant non commandité gagne 770 000 euros par an. Ouais, déjà on se rend compte que l'intérêt de ce genre de personne n'est pas celui du Pékin moyen. Ensuite, il est indiqué les rémunérations variables. Dans ces rémunérations variables, il est noté, cette structure a pour effet de faire évoluer l'ensemble de cette part variable non seulement selon le résultat atteint sur l'exercice, mais aussi au regard de la satisfaction sur plusieurs années de conditions de performance supplémentaires, essentielles pour le déploiement de la stratégie de Michelin dans une orientation résolument durable. Qu'est-ce qu'on a dit de la stratégie tout à l'heure ? Ah oui, c'était en lien avec les actionnaires. Donc là encore, les salariés ne sont pas là du tout. Ils n'ont aucun rôle à part être celui de ressources humaines. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'a plus besoin de vous, eh ben, on n'a plus besoin de vous. Vous aviez donné 10 ans, vous aviez donné 20 ans. Et alors, il est où le problème ? Vous n'êtes que des ressources humaines. C'est ça peut-être qu'il faut appréhender. Alors, c'est pas facile. Se considérer simplement comme une ligne sur un budget, c'est pas si facile. Il n'empêche que tous les discours qui veulent nous faire croire que l'entreprise a une responsabilité sociale, elle a simplement une responsabilité devant les actionnaires. On peut continuer avec la rémunération variable annuelle toujours dans ce document. En raison de leur responsabilité indéfinie et solidaire sur leur propre patrimoine, les associés commandités, les deux personnes dont on a parlé juste avant, ont droit à une quote-part des bénéfices de l'exercice écoulé déterminée dans les conditions définies par les statuts de la société. Attention à la suite. Ils partagent ainsi pleinement l'intérêt des actionnaires, puisqu'ils n'ont droit à ces tantièmes, c'est-à-dire une partie des bénéfices, que si et seulement si la société réalise des bénéfices. Ils partagent ainsi pleinement l'intérêt des actionnaires, pas ceux des salariés. Pour tous ceux qui croiraient encore au discours des dirigeants des grandes boîtes cotées en bourse, que ce soit des discours diffusés dans les médias ou dans les sites de production, renseignez-vous d'abord sur les intérêts de ces dirigeants pour connaître le degré de sincérité du discours en question. Et je suis désolé pour la représentante CGT de Vannes, il n'y a pas d'humain dans les décisions qui ont été prises sur la fermeture d'un certain nombre de sites de chez Michelin. On aurait pu vous parler de la difficulté d'être une femme dans bon nombre de pays du globe. Samedi 2 novembre, devant une université de Téhéran en Iran, une jeune iranienne s'est dévêtue alors qu'elle était contrôlée par la police des mœurs locales pour un voile pas bien porté ou pas porté du tout. Elle a été arrêtée et emmenée dans un hôpital psychiatrique. Bah ouais, carrément, SDSAP. Les autorités iraniennes ont officiellement fait de cette femme une personne qui, je cite, « souffre de graves troubles mentaux et émotionnels ». En janvier 2024, en Arabie Saoudite, une femme militante des droits des femmes et professeure de fitness a été condamnée à 11 ans de prison par les autorités. Non pas parce qu'elle se montre sans voile et demande plus d'égalité entre les sexes au royaume du Premier ministre MBS, mais pour des activités terroristes. L'antiterrorisme servant à tout et n'importe quoi dans tous les pays du globe. En Afghanistan, le régime des talibans resserre toujours plus son étau autour de la gente féminine, interdisant à peu près toute activité aux femmes. Alors là, on pourrait se dire, ah ouais, tiens, il est islamophobe, le mec qu'on entend au micro là. Non, c'est pour prendre des exemples qui sont les exemples les plus extrêmes. Il n'empêche que, aux États-Unis, le président élu mardi dernier, se vantait de pouvoir tout faire avec une femme, même l'attraper par la chatte. Oui, oui, il a dit ce genre de truc. Et même, il est passé pendant sa campagne pour l'élection 2024 dans plusieurs vidéos avec des youtubeurs de la mouvance masculiniste pour bien affirmer « Moi, je suis un mâle, un vrai. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Allez savoir. Une chose est certaine, la lutte pour l'absence de hiérarchie entre les humains est loin d'être terminée, que ça soit chez les fous d'Allah ou chez les fous d'autres dogmes comme le dogme masculiniste, le dogme libertarien. Alors du coup, va falloir continuer à lutter. C'est ce que font les femmes, notamment. Il y avait grève féministe hier. Pourquoi ? Parce que en France, il apparaît que les femmes étant en moyenne moins payées que les hommes. Eh bien, à partir du vendredi 8 novembre, c'est comme si elle travaillait gratuitement. Donc, il va falloir continuer la mission, mesdemoiselles et mesdames, mais aussi messieurs, puisque je rappelle quand même que à partir du moment où on fait des choses à un être humain, c'est un peu comme si on le faisait à tous les êtres humains. On aurait pu vous parler des délires du Vendéen pour la France. Le Vendéen pour la France faisait partie du mouvement pour la France de Devilliers. Le locataire actuel de la place Beauvau, j'ai nommé Bruno Retailleau. La réalité ne le concerne pas. À la place, il préfère l'anxiété de ses contemporains. C'est pourquoi jeudi 31 octobre, à propos d'une rixe qui a eu lieu à Poitiers et dont on a appris ce week-end, enfin le week-end dernier pour les auditeurs du direct, de sources policières que cette bagarre rangée concernait une cinquantaine de personnes qui se sont égaillées dans la nature après l'intervention de la police et l'utilisation de 3 grenades lacrymogènes. 3 grenades lacrymogènes, c'est oh là, peut-être 100 fois moins que ce qu'il balance à chaque fois qu'il y a une émotion populaire, une émotion sociale. Mais auparavant, le vendredi 1er novembre, le catholique anxiogène vendéen, suscité, peut-être galvanisé par la fête de la Toussaint, a annoncé que la bagarre avait rassemblé entre 400 et 600 jeunes, lourdement armés. Il a fait part de ses délires sur RMC. Bah oui, il fait pas ça n'importe où. Ils se sont repris, et ils ont été repris dans tous les médias de droite et d'extrême droite pour servir la soupe à un nouveau concept qui risque de faire pchit, la mexicanisation de la société. Ni plus, ni moins. Vous n'êtes pas en Amérique du Sud, non, vous êtes bien en France. Eh oui, parce qu'il y a un minot qui s'est fait tirer dessus aussi à Rennes. Oui, non mais l'idée c'est pas du tout de nier le fait qu'il y a du banditisme, des abrutis totalement cinglés qui sont prêts à tout pour gagner plus de pognon. Maintenant, quelque part, ils sont totalement libéraux, ces gens-là. Oui, peu importe les moyens, tant que mon égoïsme fait que je vis, moi, le mieux possible. À l'heure de la post-vérité, quand n'importe quoi peut être affirmé par n'importe qui, et là, oui, je veux parler de monsieur Bruno Retailleau, est repris tel quel par des journalistes qui n'ont aucune idée de ce qu'est la charte déontologique de Munich. Ouais, dans les années 70. Et renseignez-vous, les journalistes. Les affirmations mensongères de Bruno Retailleau laisseront des traces. Des Pékins moyens vont y croire et continuer à y croire. Et n'oseront plus aller par exemple à Poitiers. Ces mensonges font partie d'un plan de carrière pour l'enraciner. Oui, un plan à la Sarkozy, présence permanente dans les médias et sur le terrain. Avec le poste clé de ministre de l'Intérieur, il peut continuer à faire peur au Pékin et se faire mousser comme l'homme de la situation. C'est moi qui vais vous sauver de quelque chose qui n'existe pas tout à fait. Mais bon, l'important c'est que c'est moi qui vais vous sauver. C'est le principe du pompier pyromane. Ce mercredi, le Retailleau est allé se faire voir dans les colonnes du JD News, un énième journal de la galaxie Bolloré, afin de présenter son plan contre le narcotrafic qui a été présenté en direct vendredi 8 novembre. Encore une étape dans son plan de carrière. Le réel, s'en fout. Ah là là, on aurait pu vous parler de la trêve hivernale, une trêve qui protège les locataires, et c'est tant mieux, du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 mars 2025, mais qui ne protège pas les squatteurs, qui ont aussi besoin de se mettre à l'abri. On a tous besoin de se mettre à l'abri pour dormir. Ça, c'est le cas de tous les animaux, hein. Ils vont se planquer pour dormir. Ah bah oui, c'est sûr, puisqu'on est un tout petit peu... On est un peu vulnérable quand on est en train de dormir. Eh bien du coup, cette trêve qui ne protège pas les squatteurs, elle ne protège pas non plus les mineurs isolés qui devraient être logés par les départements et l'aide sociale à l'enfance. À Villeurbanne, près de Lyon, près de 150 mineurs isolés qui s'étaient mis à l'abri dans un gymnase ont été expulsés, évacués, disent les autorités. Ouais, c'est plus joli, ça passe mieux. Et remis à la rue, sans solution. Ça s'est passé en début de soirée, le 5 novembre. Donc, la trêve était déjà mise en œuvre. Tiens, ce soir-là, le 5 novembre, le préfet qui a donné l'ordre a dormi dans son logement de fonction. Mais on a préféré continuer à vous parler de psychiatrie. Le 16 novembre 2024, dans Ouest France, paraissait un entretien avec Céline Lagré, la directrice générale de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale, qui a son poste principal, son lieu principal, à Allonnes. Elle était interrogée par la presse écrite locale à propos d'un rapport visant à certifier la qualité des soins dispensés à l'EPSM, la haute autorité de santé, qui a donné la pire note, la note D à l'EPSM de la Sarthe, dans ce rapport. La dernière fois, nous avions vu avec Audrey Hautecoeur, infirmière à l'EPSM et représentante du personnel syndiqué à la CGT, comment les personnels justement avaient réagi à la note et à l'entretien de la directrice dans le Ouest France. Nous avons également cherché à comprendre ce qui est reproché au personnel dans le rapport de la Haute Autorité de Santé par rapport à la qualité des soins. Et il y aurait donc des problèmes de temps pour s'organiser. Écoutons Audrey sur le sujet.
À vous écouter, on entend beaucoup qu'il faudrait qu'on en parle, mais on n'a pas d'espace. Il faudrait qu'on en parle, mais on n'a pas de temps. C'est la principale difficulté de l'EPSM.
La principale problématique de l'EPSM, c'est qu'on manque de médecins. C'est quand même la première problématique. Hein. Il y a quasiment deux tiers des postes vacants. Donc c'est compliqué de travailler sans médecin quand même dans un hôpital. C'est aussi la perte de connaissances d'un certain nombre de soignants, en tout cas des jeunes qui arrivent. Et on a un gros turnover. On a 200 personnes qui sont parties là depuis le début de l'année, ce qui est énorme. On vient d'avoir le chiffre. Effectivement, à chaque fois, il faut reformer les gens. Mais il y a énormément de gens qui sont arrivés depuis peu, qui ne sont pas formés suffisamment avant et qui sont peu formés pendant leur exercice professionnel puisqu'on n'a pas le temps non plus d'aller en formation. Mais bref, effectivement, on court après le temps pour être auprès du patient et également pour être en équipe et réfléchir en équipe à des problématiques, notamment celle-ci.
Du temps. Cette semaine, nous continuons à disséquer le rapport avec Audrey en nous intéressant à la gouvernance qui, malgré ce que dit la directrice dans l'interview du Ouest France, manque à certaines de ses obligations puisque il y a des choses qui sont pointées dans le rapport de la Haute Autorité de Santé qui a paru au début de l'été dernier. On écoute Audrey sur le sujet.
Dans le rapport de la Haute Autorité de Santé, on apprend également qu'il y a un certain nombre de dérogations qui sont données à l'EPSM par l'ARS pour justement limiter le manque de médecins et d'autres soignants, ce qu'ils appellent en langage très technocratique les tensions capacitaires. Donc vous êtes en tension capacitaire, de fait l'ARS donne des dérogations et c'est dans la partie qui concerne la gouvernance, c'est-à-dire la direction de l'hôpital, où on apprend que toutes ces dérogations posent des difficultés. Et le fait d'être justement dans un système dérogatoire pour un certain nombre de services, est-ce que là encore, vous pouvez y faire quelque chose ?
Alors nous, soignants, on ne peut pas y faire grand-chose, on subit ce genre de choses. Alors je reviens juste sur le service qui était démédicalisé, dont vous parlez, qui était dérogatoire. C'était l'ARS qui avait demandé à ce qu'on ouvre un service, même si on n'avait pas de médecin, c'était une zone démédicalisée, pour relâcher la pression des tensions capacitaires sur l'hôpital du Mans, qui commençait à saturer de nos patients qui attendaient une place. Ça a changé depuis le passage de la Haute Autorité de Santé. Cet espace-là est devenu un vrai service et a aujourd'hui des médecins qui s'en chargent. Donc ça, c'est déjà plutôt positif. C'était absolument scandaleux d'avoir un service d'hospitalisation non médicalisé. C'est assez fou. Et ça a fait suffisamment de bruit pour qu'à un moment donné, la direction puisse trouver une solution, quoi.
J'ai relevé une phrase dans le rapport à propos de la gouvernance. Il est dit « Le questionnement éthique n'est pas organisé dans l'établissement tant en matière de réflexion que de recours à une organisation qui associerait les professionnels et les RU, c'est-à-dire les représentants des usagers. » Là, il est pointé du doigt qu'il y a des difficultés aussi avec les représentants des usagers, c'est-à-dire les personnes qui sont là, qu'elles soient hospitalisées sous contrainte ou pas sous contrainte. Là, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a plus d'endroit où réfléchir justement un questionnement éthique qui n'est pas organisé.
Il y a quelques années, on avait un comité d'éthique, je crois que ça s'appelait comme ça. On avait un médecin qui était plutôt partie prenante, on avait plusieurs professionnels qui participaient et on pouvait, n'importe quel agent, pouvait solliciter le comité d'éthique sur des questions. Une équipe qui se pose une question, pouvait les solliciter, ou une prise en charge qui posait question pouvait solliciter le comité éthique qui réfléchissait, qui rendait un avis. C'était pas inintéressant, enfin c'était même très intéressant. Faute de membres, puisque tout le monde est parti, ce comité éthique s'est éteint et s'est jamais rallumé, si j'ai envie de dire. Là, se pose la question de le relancer. En tout cas, au niveau médical, il y a une volonté de le relancer, ce qui est plutôt intéressant. Les représentants des usagers aujourd'hui n'ont qu'un espace, c'est la commission des usagers, comme son nom l'indique. Il y a énormément de représentants des familles, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de représentants des patients directement. Il y a beaucoup de familles qui participent. Après, c'est quelque chose de très cadré. Ils analysent un petit peu les écrits que reçoit la direction, de plaintes ou d'éloges même. Et c'est assez restreint. C'est un peu le seul espace qu'ils ont, les usagers, pour s'exprimer et éventuellement travailler avec quelque chose. Mais c'est limité.
Mais là, il n'y a pas de professionnels qui siègent, par exemple?
Il y a des représentants du personnel qui siègent. La CGT y siège, par exemple, et puis des médecins, je crois un médecin, et puis la direction surtout.
Et enfin, il est indiqué, page 16 de ce fameux rapport de la Haute Autorité de Santé, la gestion des urgences vitales n'est pas totalement maîtrisée. Ça devient dangereux quand même.
Bah là, c'est dramatique. On a énormément de changements. On est dans le changement tout le temps. Des services qui ferment, qui ouvrent, des organisations de travail qui changent, notamment des organisations médicales qui changent. On a un sac à dos d'urgence, par exemple, où si on est appelé, on doit se déplacer le plus vite possible. Ce sac à dos d'urgence a changé de place au moins 4 fois depuis que j'ai commencé. C'est quand même difficile à suivre. Ce qui pointe là, je crois qu'à l'époque, c'était qu'il y avait 2 numéros de téléphone en cas d'urgence vitale. Et là, effectivement, aller savoir quel des 2 numéros fallait appeler, c'était un petit peu compliqué. On est revenu là-dessus quand même, puisque c'est quand même extrêmement important. On est revenu sur un numéro unique. C'est assez symptomatique de notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Des gens qui changent de bureau, ne serait-ce que ça, des services qui changent de localisation, beaucoup de turnover de personnel aussi. Tout change tout le temps. Et donc, il y a des repères basiques, des choses très simples qu'il faudrait suivre. En fait, on n'arrive plus à suivre. J'ai essayé de recompter les lits tout à l'heure. Je n'arrive pas à compter combien on a de lits, puisque la directrice nous a dit l'autre jour, mais non, mais on n'a pas fermé 85 lits. Effectivement, on n'a pas fermé 85 lits, on a fermé 98. Par contre, on en a rouvert. Mais c'est extrêmement difficile à lire le nombre de lits qu'on a rouvert. Et puis, on réouvre des lits « filiarisés », entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel patient qui va dedans, il y a des critères, parfois même des critères d'admission, etc. Bref, tout change tout le temps, et donc des choses comme les urgences vitales, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas suivi. On s'est retrouvé avec 2 numéros où les collègues qui savaient plus, qui savaient même plus comment on gérait s'il se passait telle et telle chose dans l'établissement.
En effet, ça peut devenir dramatique. Au dire de Audrey, représentante du personnel de l'EPSM syndiquée à la CGT, le bougisme serait de rigueur à l'EPSM de la Sarthe et les informations ne suivent pas. Alors quand on s'attend à trouver un tel dans un bureau et qu'il a finalement changé, ou qu'on s'attend à trouver un tel, une mallette à un endroit et qu'elle n'est plus au même endroit, il s'agit d'être super carré dans la communication. Mais alors que faire ? Eh bien, on continue et on termine avec Audrey Hautecoeur de la CGT de l'EPSM et représentante du personnel.
De fait, ce rapport confirme qu'il y a des difficultés à la fois de gouvernance, à la fois avec les soignants, et tout ça, c'est au détriment des patients. Est-ce que vous, en tant que personnel, vous avez une place pour essayer de gérer justement ces difficultés avec la direction ?
Alors c'est quelque chose sur lequel on est assez en désaccord avec la direction, c'est comment on sort de cette crise-là. Ça fait plusieurs mois qu'on dit il faut qu'on se mette tous autour de la table, c'est-à-dire la direction, les médecins, les usagers et les soignants, avec leurs représentants du personnel, pour essayer de trouver des solutions à tout ça. Entre le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui donne 49 recommandations, là c'est assez précis, et la Haute Autorité de Santé qui ne nous certifie pas, on est dans un état de crise majeure. Il faut qu'on se mette tous autour de la table pour travailler des mesures ensemble. On entend parler du tutoiement dans des articles de journaux. Le tutoiement, c'est quelque chose qu'on doit questionner et qui doit se questionner en équipe. Ça fait 25 ans que je travaille là. Ça fait 25 ans qu'on se pose la question. Est-ce que c'est judicieux de tutoyer ? En tout cas, tutoyer systématiquement, ça n'est pas possible. Mais parfois, pour certains patients particuliers qu'on connaît bien, ou pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est des questionnements d'équipe à avoir ensemble. Pour ce qui est des choses extrêmement importantes qui sont relevées dans les rapports, il faut qu'on travaille collectivement. C'est pas que la direction qui peut décider, et c'est pas que les médecins qui peuvent décider. C'est ensemble qu'on peut essayer de trouver des pistes de sortie de cette situation. On a demandé trois choses à la direction. C'était effectivement de se mettre tous autour de la table. C'est d'arrêter tous les projets, parce qu'on a une centaine de projets en cours, donc il y en a déjà qui sont mis en place. Voilà, pas question d'y toucher, mais faire une pause en fait dans tous les projets qui partent un peu dans tous les sens, parce qu'on n'arrive plus à suivre, vraiment. Et puis d'écouter un petit peu le personnel à travers ses représentants au moment des instances, par exemple. Parce que quand on vote contre quelque chose, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce que pour nous, ça n'a pas de sens en termes de qualité des soins ou en termes de conditions de travail pour les collègues.
Alors clairement, la communication est vraiment compliquée. Donner du sens aux actions de chacun, voilà un enjeu dans cette activité que l'on appelle le travail. Donner du sens déjà en travaillant ensemble. Voilà une nouvelle complication dans les structures hiérarchisées. Mais au moins essayer. Alors oui, c'est dur pour les directions, habilitées à utiliser un pauvre petit pouvoir, diriger. Cependant, dans le cas de l'EPSM, la direction ne va pas avoir trop le choix, puisque la Haute Autorité de Santé demande des changements, des améliorations dans les 18 mois. C'est long et c'est court à la fois. C'est long, mais c'est court pour changer des pratiques hiérarchiques. Par exemple... Pour les auditeurs du direct, si vous entendez du bruit, eh bien sachez que il y a les 6 heures et vos cartes sur le circuit. Oui, une cinquantaine d'équipes est venue gaspiller de l'énergie pour faire tourner des kartings sur un circuit. Ça aura lieu toute l'après-midi, 13h30, 19h30, c'est 6 heures. Hein. Le but, être le plus rapide possible pour se faire des moteurs qui rugissent. Et donc, finalement, qui abîment la qualité de vie des riverains depuis le vendredi 8, depuis le début des essais. Pour ceux qui habitent pas très loin du circuit, sachez qu'entre les 15 et 17 novembre, une nouvelle course aura lieu et ensuite, ça sera la trêve hivernale. Enfin, jusqu'en mars, de la mi-novembre jusqu'à la mi-mars, il n'y aura pas de course sur le circuit des 24 heures. Et là, ça permettra peut-être d'améliorer son sommeil et peut-être d'améliorer la qualité de l'air dans le coin. Samedi 9 novembre, manifestation à 14 heures. Malheureusement, encore une fois, place de la République contre les interventions multiples de l'armée israélienne à Gaza, au Liban et dans les territoires occupés. Et place de la République, le mercredi 13 novembre à 18h30, une manifestation également de solidarité contre le gala qui a lieu à Paris, organisé par l'association Israel Forever avec la participation du ministre israélien Bezalel Smotrich, qui est ministre de la Justice. Le gala en question là a pour objectif mobiliser les forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Texto. Hein. Pour en savoir plus sur le ministre qui est invité, Israël, les ministres du chaos à voir sur Arte. Accrochez-vous, ça fait un petit peu mal au ventre quand même d'entendre les discours que peuvent prononcer ce genre de personnes, Bezalel Mostricht par exemple. Lundi 11 novembre, place de la paix devant le monument de la paix au square d'Elmont-Horst à côté de l'église Saint-Martin rue Pierre-Curie à Alonne, un rassemblement carrément antimilitariste et ça aura lieu donc à 14h à l'invitation de la Libre Pensée pour dire tout le mal que l'on pourrait penser de l'activité militaire. Pas des militaires en tant que tels, mais l'activité militaire. À un moment, va falloir arrêter ce genre de conneries, se tuer les uns les autres. Mercredi 13 novembre à 12h30, rassemblement contre la sélection et pour l'inscription des 300 facs. Les 300 facs, ce sont trois personnes qui n'ont pas d'inscription à l'université du Maine. 3 pour 12 000 étudiants. Ouais, mais il n'y a pas de solution. Eh ben voilà, plus de places, plus de moyens. Rassemblement à l'université, devant la maison de l'université. Arrêt tram campus pour réclamer de meilleures conditions d'études. C'est un peu la même chose que pour les conditions de travail, mais pour étudier. Jeudi 14 novembre à 18h30, une réunion de l'Assemblée du collectif de défense des 200 arbres de l'avenue Bollé. Parce que ça y est, hein, les travaux c'est parti, parce que ça y est, la propagande municipale s'étale dans Le Mans, ma ville. Non, ça s'appelle Au Mans maintenant. Mais il n'empêche qu'il y aurait toujours près de 400 arbres qui vont être abattus pour faire les fameuses chronolignes. À quoi servent-elles? Demandez à la municipalité. En attendant de se retrouver dans un certain nombre de lieux, eh bien, je vous propose de nous dire tout simplement là maintenant, allez, au revoir.